Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous nous écoutez sur Radio Panique. Vous êtes branchés sur les 105.4 FM. Donc c'est l'émission Radiographie. Vous êtes aussi en direct sur Radio Publique, hein, sur le www radiopublique.be. Et c'est bien Badon qui est là, donc qui est en ligne, justement, qui est mon invité aujourd'hui, avec lequel je vais pouvoir rebondir sur l'actualité, entre autres sur la question de savoir quelles sont les attentes avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Hein, quelles sont les attentes par rapport aux Africains, par rapport à l'Afrique, par rapport à nos relations, hein, nos relations entre les États-Unis et l'Afrique, bien entendu. Il y a pas mal d'espoir. Batebele Bako Kanisa qui est arrivé à Joe Biden pour l'Africain, ça va amener quelque chose. Voilà, beaucoup d'espoir, hein, quelque chose de grand, quelque chose de un grand changement en tout cas par rapport à la politique de son précédent, hein, la politique d'immigration par exemple au niveau de l'intérieur de l'Amérique. Mais aussi la coopération avec des États africains. Donc sa politique africaine n'a pas été toujours bien saluée, bien applaudie, voilà. Donc il y a eu beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Et donc nous allons voir ici, je vais essayer de rejoindre mon invité qui est là. Allô, bonjour Badon, est-ce que tu m'entends? Allô, donc mon invité, sûrement. Voilà, pardon, la question est posée, hein. Quelles sont nos attentes? Quelles sont vos attentes, vous, les auditeurs? Quelles sont tes attentes, toi, Badon, par rapport à l'arrivée, justement, de Joe Biden à la Maison Blanche? Qu'est-ce que ça représente, ces changements au niveau de la tête des États-Unis par rapport à l'Afrique? Je rappelle ici que, Badon, tu es sociologue et puis tu es journaliste, voilà. Donc, ce n'est pas vraiment ta spécialité, mais tu as quand même, étant qu'Africain, tu as quand même un point de vue par rapport à ça. Est-ce que d'emblée, hein, en attendant que je règle deux, trois petites choses, tu peux déjà te présenter à nos auditeurs qui t'écoutent là maintenant?
Mbote, Taramaïdassili, Navad, Mofouan, Wouan, Novi. Quelques mots en langue africaine. Je m'appelle Badon Mohamed Abdoulaye Badon, originaire de la République de Djibouti. Alors, j'ai fait des études en sciences politiques, droit, communication, éducation. Et le journalisme m'a intéressé, j'ai exercé. Sur le thème qui nous est proposé aujourd'hui pour débattre.
Ah voilà, donc je te relance, hein, avec la question. Quelles sont tes attentes par rapport à l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche? Pour toi, ça change quoi? Ça représente quoi, ces changements de président aux États-Unis?
Pour moi, il n'y a pas vraiment un grand changement qui aura lieu sur de la politique états-unienne sur l'Afrique. Parce que même si symboliquement, il va faire quelque chose de différent de ce qu'avait fait l'ancien président, il faut toujours se rappeler que les présidents des États-Unis visitent rarement l'Afrique. Ceux qui ont poussé les puissances coloniales à l'indépendance pour donner l'indépendance à ces colonies. Donc, mais quand on observe les 3-4 derniers présidents des États-Unis, il y a eu peut-être un ou deux qui ont visité l'Afrique. Et quand ils l'ont visité, Bush, d'abord, il était intéressé par la sécurité des États-Unis sur le continent. C'est quand ça a commencé ce qu'on appelle l'islamisme terrorisme, le terrorisme de l'islam, de mouvement islamiste. Obama, quand il est allé, c'était pour donner des leçons aux dirigeants africains, dire qu'il faut plus de démocratie, des institutions solides, non pas des hommes forts. Et même au Sénégal, quand il était au passage, demander si pourquoi la société sénégalaise n'accepterait pas des homosexuels, voire faire des lois en favorisant ceci dans une société musulmane qui a ses repères, ses relations entre les différents groupes qui la composent. Donc le poids de la religion aussi, ou des religions. Quant à Joe Biden, moi je ne pense pas qu'il va faire grand chose. Il a d'abord beaucoup de choses à faire dans son pays, après quatre années néfastes de Trump, et je ne pense pas qu'il va effectuer un voyage dans le continent africain. Peut-être un petit changement qu'il peut introduire réduire le nombre des militaires. Et je ne sais pas s'il aura la capacité de faire. Lui, il va dépendre de ses conseillers. S'il faut réduire le nombre des militaires des États-Unis qui sont de plus en plus nombreux sur le continent, et surtout les régions où il y a des mouvements islamistes, des mouvements religieux qui font des attentats ou supposés faire des attentats. La Corne de l'Afrique, le Sahel en ce moment. Le Sahel, c'est la France qui est particulièrement présente, mais il y a l'aide des États-Unis et la France demande que les États-Unis ne quittent pas. Surtout les renseignements et tout ça que les Français et les Européens n'ont pas suffisamment pour contrôler les mouvements des islamistes. Donc, pour conclure sur ce point, je ne pense pas qu'il faut, moi personnellement, je n'ai pas une grande attente de la politique de Biden sur le continent africain. Des gestes symboliques peut-être, mais bon, on verra. Il n'a fait que commencer, non, sa présidence, on verra.
Ok, on verra, comme tu l'as dit, hein, je l'ai dit aussi maintenant à nos auditeurs qui nous écoutent maintenant. Vous nous écoutez sur Radio Panique, vous êtes branchés sur les 105.4 FM, donc c'est l'émission Radiographie, vous êtes aussi en direct sur Radio Publique, hein, sur le www.radiopublic.be. Voilà, donc vous savez aussi nous appeler et nous dire aussi votre point de vue. Bokokiko benga bope ça à traduire. L'émission s'est fait en français, en lingala, et vous pouvez aussi parler votre langue si vous exprimez en wolof ou en, je sais pas quelle langue, mais à condition que vous fassiez une petite traduction, comme ça qu'on comprenne bien Magambo Goloba. Voilà, ici vous savez aussi nous appeler pour donner votre point de vue par rapport à la question posée, hein. Quelles sont vos attentes avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche? Je sais pas comment on dit la prononciation exacte de son nom, voilà, mais je me débrouille, hein, je suis pas anglophone. Voilà, donc appelez-nous au 0465 14 69 22, 0465 14 69 22. Vous pouvez nous appeler aussi surtout via notre téléphone ou laisser vos voices sur WhatsApp. Nous allons répondre ou nous allons diffuser vos voices et y répondre. Bon, voilà, Badon, je reviens à toi. Évidemment, tu n'espères pas beaucoup de choses, peut-être par expérience, hein, comme tu viens de le dire. Tu viens d'étaler ici les différents présidents qui sont passés. Il y a un peu beaucoup de bruit à côté de toi, Badon, si ça peut un peu diminuer.
Oui, vas-y.
Voilà, donc tu ne crois pas qu'il y aura grand chose, mais du moins, à voir les tons que le président actuel donne, je pense. Déjà par rapport à la politique intérieure de l'immigration, il va y avoir déjà beaucoup de changements. Aussi par rapport à l'Afrique, vous savez, il y a une loi que son président avait mis en, le président précédent avait mis en place par rapport aux Africains ou aux gens qui pratiquent la religion islamique, qui était interdit. Ces personnes étaient interdites carrément d'aller en Amérique. Voilà, Papa Bella, je vais te reprendre tantôt. Le temps de terminer un petit peu avec Badon, mais je vais te reprendre, on ne coupe pas. Voilà, donc il y a déjà un auditeur en ligne. Donc voilà, donc il y a quand même un changement par rapport à cette loi, qui est, on est certainement sûr que cette loi va sauter. Est-ce que tu penses que Joe Biden, le fait qu'il a beaucoup travaillé aussi avec Obama, tu penses qu'il y aura une sorte de continuité, une sorte de cabinet Obama sans Obama à la présidence des États-Unis? Tu soupçonnes un peu ça?
Il y aura toujours quelque chose du cabinet d'Obama, parce que n'oublions pas d'abord qu'il a été son vice-président, qu'ils ont gardé des bonnes relations, et le fait de nommer une femme, même si on dit qu'elle est noire, moi je ne vois pas, mais bon, les gens, surtout les journalistes, s'entêtent à nous faire comprendre que c'est une noire, donne des signes qu'il a une différence avec l'ancien président. Mais bon, sur un point que tu avais soulevé, les personnes originaires des pays musulmans d'Afrique qui ne pourraient pas y aller, ils retirent tout simplement parce que Mais le Parti démocrate à l'époque, il avait considéré que c'était illégal d'interdire des gens qui peuvent rentrer dans le pays s'ils ne sont pas soumis à des infractions contre les lois des États-Unis, qui n'ont pas commis une infraction contre les intérêts des États-Unis dans leur pays d'origine ou ailleurs. Donc ça, on peut dire, oui, c'est un symbole que c'est une politique nouvelle qu'il va développer avec les pays à majorité musulmane et en particulier les Africains, parce que bon, dans ces pays comme le Tchad et tout ça, où qui était sur la liste, la population à majorité musulmane, mais c'est pas là où il y a des attentats contre les intérêts des États-Unis. Donc moi, je dissocie deux choses. La politique intérieure, la politique extérieure. La politique extérieure, c'est pour défendre des intérêts, surtout commerciaux, d'armement, vendre et tout ça. Et la politique intérieure pour des intérêts directs des citoyens des États-Unis. Mais bon, okay. Le continent africain, depuis la guerre froide, était considéré toujours comme un champ pour la sécurité extérieure des États-Unis. Okay. Donc, il va pas, ça, je pense pas qu'il y aura un grand changement. Des petits actes comme ça symboliques, il y aura.
Oui, ok, nous continuons ici. Nous avons un auditeur en ligne, donc nous allons passer l'auditeur qui va pouvoir s'exprimer par rapport à la question. Mbote papa Bella Bella.
Mbote pena invité Nabino, donc do revete. Ceux qui soient disant mon âme conjoint à États-Unis, on va pour nous, on a peut-être à ça la caméra quelque chose qu'on a fait en tout cas au Bosa. Tout répété, tout tita. Donc il y a quoi l'intérêt à Nana et pour y avoir ça les langues parlement avant ceux qui d'engueuler bangou à ça commandé par parlement avant. Car ça la moi quelque chose qu'on va faire pour un abo en tout cas on a tout tita pour répé. Obama, tu tiens à dire qu'après Obama il t'aime comme il le possède un peu. Ndambo ya mundele ndambo moyi ndo tolbaga awo sala moi quelque chose pour l'Afrique mais
Okay.
Donc ndenge invité la mina le bipe na za pena na nzela pena donc tout ça est dit ya kunate.
Ah, merci papa Bella Bella. Merci beaucoup pour l'intervention. Mais continue à nous suivre si jamais il y a des questions. Tu peux poser la question sous. Voilà, merci beaucoup. Donc ici l'invité, notre auditeur qui a tout de suite répliqué pour te soutenir. Hein, en fait, j'ai traduit. Hein, pour lui, tu as totalement raison sur tout ce que tu as dit ici. Tu as raison parce que voilà, dans le passé, il y a eu beaucoup d'espoir. Hein, il y a eu beaucoup d'espoir par rapport déjà à Obama. Une fois qu'il a été élu, les Africains étaient, ouais, en tout cas, les continents africains étaient aux anges. Les gens ont beaucoup espéré, mais bon, les espoirs, voilà. Beaucoup de gens ont été désillusionnés à voir comment les choses se sont passées. Et donc, pour toi, la rupture par rapport à la politique africaine, dont la rupture entre Trump et Biden ne sera pas très marquée, quoi. C'est ça?
Oui, le président des États-Unis, comme le président des démocraties, ils doivent défendre beaucoup d'intérêts, non? Et c'est une lutte d'influence des groupes qui va déterminer la nature de cette politique, que ce soit le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, parce que l'Europe aussi attend un changement de la part du nouveau président, tu vois. Donc, dans toutes les régions du monde où cette puissance au pied d'argile a un nouveau président, et on regarde toujours par rapport à l'ancien président, non, il y a encore une semaine. Bien sûr, si on revient en arrière et surtout ce que soulevait la personne qui m'a précédé, l'auditeur, si c'est bêtement que nous avons, nous Africains, enfin certains d'entre nous, ont pensé que le fait d'avoir élu un président de père africain allait apporter un changement important dans la relation entre ce grand pays et le continent africain. Mais il faut jamais oublier ça. Obama, il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis, même s'il voyageait dans le pays d'origine de ses parents, ça veut dire le Kenya, les intérêts qu'il défendait, c'était les intérêts des États-Unis. Donc, c'était difficile de faire quelque chose de totalement différent par exemple des investissements qu'on oublie la sécurité omnibule les dirigeants américains, enfin états-uniens depuis maintenant une quarantaine d'années et de plus en plus. C'est peut-être le premier poste dans le budget national aussi. Et derrière il y a des groupes qui défendent ça, ceux qui vendent les armes. Donc dans une région comme la région de la Corne de l'Afrique, nous avons souffert la présidence d'Obama. Pour vous dire clairement, il y a une base militaire des États-Unis, la première sur le continent, en 2002. Et volent les drones qui tuent des innocents au Moyen-Orient, enfin au Moyen-Orient, au Yémen. Parce qu'il y a des terroristes qu'on a trouvés, des Américains d'origine, enfin des États-Unis d'origine yéménite qui étaient sur la liste des terroristes, étaient retournés au Yémen, la Somalie qui avait disparu, un État défaillant, ou des groupes, des terroristes qui fouillaient les bombardements des États-Unis en 2001 d'Afghanistan et du Pakistan sont venus. Alors, Obama, il a continué la politique de Bush. Bush, il avait commencé à donner l'ordre, dans cette région, de neutraliser tous les mouvements islamistes et surtout Al-Shabaab, qui a donné obédience à l'État islamique, après à l'État, avant à l'État, à Al-Qaïda. Si Bush a commencé un petit peu avec cette guerre invisible des drones qui tuent des milliers de personnes, surtout des innocents, Obama, il a donné carte blanche à ses militaires et ils ont continué. Donc, ça n'a pas apporté quelque chose de positif, le fait qu'il soit d'origine africaine, Obama. Et donc, par exemple, il n'y a pas, moi, pour ce que j'ai pu lire, écouter, par-ci, par-là, je n'ai pas vu des investissements importants, des projets sociaux. Oui, Bush, il avait commencé quelque chose qu'il appelle qu'il peut ouvrir au marché à des États-Unis certains produits des pays africains, ne pas soumettre à des douanes. Mais tout ça, ça n'apporte pas grand-chose parce que ce que nous vendons, c'est toujours soumis à des conditions drastiques, non, au niveau sanitaire. Voilà. Donc, Biden, peut-être sans se penser réellement ou à 100%, ça dépendra de ses conseillers, à ce qu'a fait Obama, il peut nous surprendre et dire, présenter une politique différente, par exemple la réduction des militaires, réduire d'avoir le nombre des militaires et puis surtout cette obsession de la sécurité qui n'apporte pas ni aux États-Unis ni aux pays où il y a des militaires de ces pays.
Ok, maintenant oui, nous allons, je vais revenir à toi bientôt puisque justement par rapport à la présence américaine en Afrique, hein, militaire américain en Afrique, on sait que il y avait déjà les débats autour de la base d'Agadez, hein, au Niger, là où justement tu as parlé de drones, et là-bas aussi c'est une base de drones pour lutter contre le Boko Haram dans la région de Sahéro-Saharienne. Donc, le président précédent avait des intentions de fermer cette base qui coûte plus ou moins 85 millions de contributions pour le, tu vois, de leur contribution au Sahel. Bon, voilà. Comme tu dis, est-ce que Joe Biden va fermer cette base? Est-ce qu'il va continuer avec cette base? Bon, par rapport à ce qui se passe dans votre région de Corne de l'Afrique, on ne sait pas, peut-être c'est deux réalités différentes, mais ici déjà, ça fait cette région, au niveau du Sahel, ça fait déjà débat. Hein. Est-ce qu'il va garder cette base logistique? Voilà, puisque l'Europe n'est pas non plus d'avis que cette base soit fermée. Mais je vais revenir à toi, mais avant de continuer cette conversation avec toi, je vais rencontrer Zico Man qui est là. Bonjour Zico Man.
Oui, bonjour Kinch, bonjour à notre invité. Mm-hmm. En fait, moi aussi je pense abonder dans le même sens que lui pour l'arrivée des John Biden. Pour nous, nous devons être observateurs parce que nous ne savons pas ce qui peut nous amener comme politique, parce que jusque-là, il n'a pas encore tracé une politique extérieure vis-à-vis de l'Afrique. Donc nous devons observer, voir ce qu'il va faire de nous-mêmes. vu la situation actuelle pandémique, je pense pas qu'il va faire grand chose pour l'Afrique. Donc il nous revient à nous Africains de nous organiser autrement pour nous défendre aussi. Alors j'allais poser une question à notre invité en tant que politologue. Quelle serait sa politique pour faire sortir l'Afrique dans la crise? Voilà.
Voilà, voilà. Badin, quelle serait ta politique dans le cas, dans le cas de figure actuel pour faire sortir l'Afrique de sa crise traditionnelle, on va dire comme ça, ou légendaire?
La crise des États qui...
Oui, des États africains, oui. Oui, oui, tout à fait. On ne sait pas ici, peut-être, pardon, hein, excusez-moi de te couper, Zico peut confirmer, est-ce qu'il est toujours là, Zico? Zico, il est parti, ouais. Je voulais qu'il précise quelle crise politique, économique, puisque c'est, la crise, c'est un peu vaste.
Oui, 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 oui. Et puis, tous les pays du monde ont des crises, non? Mais celle de l'Afrique, on voit, est spéciale. Derrière, c'est la pauvreté du continent, le continent le plus pauvre, le plus misérable et tout ça. Et donc, nous sommes tellement fragiles par rapport à d'autres. Mais la différence avec d'autres continents et d'autres pays, c'est aussi le temps, la durée de l'existence des États africains, la mise en place des institutions, le fonctionnement, le dysfonctionnement, l'absence de consensus de certains dirigeants. Mais quand on parle de crise, on généralise le plus souvent. Moi, j'ai l'habitude de dire, regardons les pays, pays par pays. Et une crise, c'est aussi quelque chose qui permet à un pays de se reposer des questions et de restructurer son dynamisme, son fonctionnement institutionnel. Je donne toujours l'exemple du Botswana, qui fonctionne bien. C'est un petit pays en termes de population, alors que les autres, les grands pays, surtout ceux qui ont le pétrole, sont les plus mal gérés, avec une mauvaise gouvernance, avec des conflits éternels, non, au niveau des groupes qui le composent. Une richesse mal repartie, alors que le Botswana, c'est tout à fait différent. Donc, comment sortir cette crise? Ça, c'est une vraie question, difficile aussi de donner une réponse générale. Le continent doit s'unir, c'est-à-dire essayer au niveau des régions, créer des organisations qui donnent de la... un autre dynamisme, un autre fonctionnement, une plus grande intégration, peut-être revoir ce qu'est l'intégration, le fonctionnement des institutions. Et ce n'est pas pays par pays qu'on peut négocier avec les grands pays, c'est en ayant une politique régionale, un voisinage aussi qui respecte les citoyens, qui permettrait de sortir cette crise, parce que des fois, c'est même une crise au niveau local, le mauvais fonctionnement, un dirigeant qui veut rester longtemps au pouvoir, alors qu'il sait très bien que deux mandats ou trois mandats après, il ne peut rien faire et qu'il devient un élément d'un groupe qui le manipule. Regardez, tout récemment, Museveni vient d'être réélu, et le jeune qui s'est présenté contre lui... en détention dans sa maison, dans sa villa, il peut pas sortir. Et comment on peut résoudre une crise quand on fait pas, on ne respecte pas les droits des candidats, des personnes qui participent à la vie politique? Donc, il faut revenir à cette question, dire le respect institutionnel, le respect constitutionnel, et peut-être les respects qu'on doit aussi exiger des autres. Si nous, entre nous, on n'a pas de respect et qu'on se maltraite, les autres ne vont pas nous maltraiter. Et d'ailleurs, on donnera toujours cette image de dire le continent africain est celui qui se trouve dans une situation catastrophique. Ils n'ont pas d'unité, il n'y a pas des États, tous les États africains sont pratiquement défaillants. C'est cette image qu'il faut changer. Donc, pour changer, d'abord au niveau local, non, revoir le fonctionnement des institutions, et savoir perdre les élections, par exemple. Et puis, penser d'abord la région au lieu de penser l'extérieur. Alors, avant, c'était la France, maintenant c'est la Chine qui devient la puissance colonisatrice du continent, qui est un peu partout. Et donc, quand on donne plus d'intérêt à un partenaire extérieur, on ne peut pas dire qu'on va trouver une solution à nos problèmes. Une solution à nos problèmes, c'est un bon voisinage et des échanges entre les deux pays. Et ça, ça existe au niveau des frontières. Donc, c'est ce qu'il faut construire. Voilà.
Voilà, Zikoman est revenu. Zikoman, voilà, est-ce que tu es satisfait de cette réponse? C'est assez complet pour toi. Bon, Zico, tu peux arrêter la radio à côté de toi.
Bon, j'ai arrêté la radio, oui.
Oui, oui.
Donc, voilà, il est sur la lignée de ma pensée, voilà. Mmh. Et j'avais encore une sous-question.
Mmh, avec plaisir.
Aujourd'hui, hormis l'organisation, non, l'OIA, les unités africaines, on pensait à créer les États-Unis d'Afrique. Quelle serait sa position? Et la monnaie unique pour l'Afrique.
Voilà. Badon, les États-Unis d'Afrique, la monnaie unique, qu'est-ce que tu en penses? Merci, Zico.
C'est bien cette idée de construire au niveau national cette référence des États-Unis d'Afrique. Moi, ça me dérange beaucoup. J'ai entendu des auteurs, des écrivains. Il y a un écrivain djiboutien qui parlait beaucoup de ça aussi. Pourquoi on va penser toujours États-Unis d'Afrique? Notre principal problème, c'est de résoudre, d'améliorer le système politique local que nous avons et l'économie locale. Après, on peut au niveau régional faire aussi quelque chose, et de là, au niveau continental, essayer d'améliorer les relations de pays à pays, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Un exemple, parce que c'est des discours que je fais, le voyage. Quand on va dans un pays à un autre, à part quelques pays, on demande encore aux citoyens du continent africain un visa. C'est déjà quelque chose qu'on devrait commencer à dire non au visa, la liberté de circulation. Et cette idée peut entraîner après une relation plus fluide entre les pays et une certaine intégration. Un Sud-Africain qui va librement au Congo se considérera qu'il est citoyen du continent et non pas citoyen d'Afrique du Sud. Comme un Congolais qui va à Djibouti, qui on demandera à l'entrée votre visa, sinon vous restez ici et vous reprenez notre avion. Donc, un politologue camerounais, Chelem Bembe, disait qu'il a commencé avec d'autres chercheurs africains, un groupe qu'ils ont créé, qui conseille les présidents quand ils sont en réunion à l'Union africaine, pour demander à ces présidents de réduire la paperasse, la demande de visa des pays quand un citoyen d'un autre pays voyage, quoi, qu'on peut pas voyager librement pour des questions touristiques ou pour des affaires, faire une prospection de marché. C'est un entrepreneur qui a besoin des produits d'un autre pays. Alors, pourquoi on va lui mettre des obstacles? Et donc, lui, il me disait, ce politologue camerounais, Chelem Bembe, disait qu'il a eu l'accord de 35 pays africains sur les 54 ou 55 du continent qui acceptent maintenant, même s'ils n'ont pas supprimé le visa, au moins de faciliter l'attribution du visa à l'arrivée à l'aéroport. Et je crois qu'entre certains pays d'une région déterminée, il y a cette libre circulation. Moi, comme citoyen de Djibouti, je n'ai pas de visa, je n'ai pas demandé un visa pour aller au Sénégal. Donc, les Congolais, les Aïrois, les Rwandais, d'autres, d'autres citoyens entre Congolais, hein. Régions, ils n'ont pas aussi. Donc, mais ce qui manque, c'est un Djiboutien qui veut aller au Malawi. Il aura besoin d'un visa. Mais ça dépend des relations entre les deux pays. Or, il n'y a pas de relations diplomatiques encore. Et ce qui est surprenant, c'est que au niveau diplomatique, certains pays africains sont représentés à l'intérieur du pays, du continent africain, par l'ex-puissance coloniale. Et non pas par un pays voisin. Par exemple, le cas des pays des Grands Lacs, si le Congo ne peut pas avoir une ambassade dans une région, pourquoi il ne s'associerait pas avec le Rwanda ou avec le Burundi?
Pour cet exemple, c'est un peu délicat.
Non, c'est pas délicat. Alors, pourquoi c'est pas délicat quand un pays est représenté par l'ancienne puissance coloniale dans un autre pays qui ne peut pas avoir une ambassade? Parce qu'il n'a pas les moyens.
Pour qu'un pays soit représenté par un autre, soit se faire représenter, il y a tout un protocole à mettre en place. Hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des préalables. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit pour cet exemple-là, c'est un peu délicat. Tu vois, mais c'est dans l'idéal, pourquoi pas.
Non, mais tu fais référence à votre région, à la région des Grands Lacs, où il y a des tensions permanentes depuis les indépendances.
C'est spécifique.
Mais, mais au-delà des conflits, il peut y avoir des intérêts de groupes qui dirigent le pays. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de compliqué, mais ce qui est frustrant, c'est que un de ces pays des Grands Lacs choisisse l'ancienne puissance coloniale qui a une ambassade dans un autre pays que le Congo, le Burundi, le Rwanda ne peut pas se permettre, c'est-à-dire parce qu'il faut entretenir un local, un personnel, il faut mettre de l'argent. Et donc la puissance coloniale, l'ex-puissance coloniale va représenter. Et c'est quoi? C'est encore une colonie, non?
Ben voilà, si tu l'as dit, hein, voilà.
Non, moi je le vois comme ça. C'est encore une colonie. On veut construire quelque chose. Quand on veut construire quelque chose, il y a des difficultés à confronter. Ces difficultés, à un moment donné, on doit surmonter. Parce que la génération qui dirige maintenant nos pays, c'est une génération qui a vécu une culture politique de la puissance coloniale. Et ça, cette génération est en voie de disparition.
Moi, je voulais revenir un peu justement tout ça, il y a du lien, hein, avec notre sujet. Mais je voulais aller encore dans les concrets par rapport à la question posée. Je voulais savoir ton point de vue par rapport à cette attitude des Africains. À chaque fois, on l'a dit, et nos auditeurs le disent ici en intervenant, et à chaque fois qu'il y a changement à la Maison Blanche, et les gens espèrent toujours, il y a beaucoup d'espoir. Cette attitude-là, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? C'est une sorte de... Ça démontre une sorte de manque de confiance aux dirigeants africains, et c'est pourquoi on veut se fier à la grande puissance en espérant que le changement viendra peut-être de là. Comment tu peux expliquer cette attitude?
D'abord, moi, j'ai pas vu... Il y a un site qui s'appelle Baromètre Afrique, un truc comme ça, qui fait des sondages. Je ne consulte pas souvent, mais je ne sais pas si c'est l'élite, juste ceux qui ont étudié à l'étranger, qui sont revenus au pays, qui pensent que quand il y a un nouveau locataire à la Maison Blanche, on attend un espoir. Mais ça, c'est aussi un rêve. On ne peut pas toujours mettre quelque chose qu'on doit faire, nous, au niveau local, un acteur qui vit des kilomètres et des kilomètres et qui a d'autres intérêts. Donc, lui, il ne peut pas. Non, mais ce dirigeant ne peut pas imposer un changement. Il défendra toujours ses intérêts. Il sait très bien qu'il va être confronté à des groupes, l'opposition, qu'elle soit légale ou armée, et le gouvernement en place. Et à la fin, même si on dit que les démocraties sont sensibles aux droits de l'homme, ils s'en foutent des droits de l'homme. Ils poursuivent leurs intérêts. Et il y a une célèbre phrase du général de Gaulle qui disait « La France a toujours ses intérêts ». Donc, ça, il faut oublier de dire qu'un locataire de la Maison Blanche, il va apporter un changement et qu'on doit attendre quelque chose de lui. Parce qu'il ne peut pas agir directement sur les relations politiques qu'il y a entre les différents groupes qui vont diriger ou qui dirigent le pays. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Par exemple, il y a des élections qui ont lieu dans tel pays. Les dernières élections qu'on a assistées, celui de l'Ouganda, on sait très bien que les élections ont été manipulées. On voit comment le jeune opposant, il est emprisonné dans sa maison. Digital, ouais. Sa femme a été maltraitée. Mm-hmm. Et comment il peut réagir dans cette situation, un président des États-Unis? Chercher, aller déloger, faire l'ingérence. Des attentats.
Ça fera l'ingérence, ça.
Et voilà. Et ça, c'est un changement? Non. C'est pas un changement. Faire comprendre peut-être d'une autre manière que les relations entre les États-Unis et maintenant les dirigeants africains, ils trouvent une autre puissance qui ne se préoccupe pas de ça, la Chine. Donc, qui s'en foutent, qui applaudit chaque président qui est élu. Donc, moi, je ne pense pas qu'un nouveau locataire de la Maison Blanche, il va apporter des éléments de solution de nos problèmes. Mm-hmm. Non.
Ok. Merci, Badon, pour cette réaction. Okay. Zikoman, de ton côté, tu as une autre question, ou bien tu penses contraire à ce que Badon vient de dire, ou bien tu penses de la même façon?
Enfin, moi, j'ai posé cette question-là, peut-être la terminologie n'était pas bien choisie. les États-Unis d'Afrique. Donc, nous devons faire comme l'Union européenne ou l'Union africaine, mais d'une autre manière, avec une politique africaine pour le développement des régions. Donc, nos pays doivent être considérés comme des régions et l'Afrique, un pays comme les États-Unis. C'est ça mon souci. Parce que si on fait ça avec la grande politique africaine, ça peut aider aussi les régions à se développer, avoir la même politique pour toute l'Afrique.
Pardon.
C'est pas facile à le faire, mais nous devons mettre les idées pour y arriver. Voilà. Et les gens sur lesquels nous voulons compter, ce sont les mêmes personnes qui foutent la merde en Afrique en créant des groupes armés et puis leur dit c'est des terroristes, tantôt là-bas c'est des terroristes, de l'autre côté c'est voilà.
Merci Zico.
Pour que nous ne soyons pas unis, pensons autrement à l'unité africaine, autrement pensée, avec une bonne politique africaine et qui va faire le développement des régions, dont les pays seront considérés comme des régions.
Ok, merci Zico. Pardon, donc l'unité africaine au lieu de Nations Unies d'Afrique.
Oui, oui, je suis favorable à cette unité, mais il ne faut jamais oublier quand il y a des États qui existent et qu'on veut créer une union, il y a toujours une confrontation entre les États. Donc, supprimer les pays, ce sera impossible. Ce sera impossible, comme propose... rappelle-moi son prénom.
Zico. Zicoman.
Voilà, Zico. Zicoman. Donc,
non.
C'est des colonies, des territoires qui étaient déjà divisés, qui acquièrent une certaine souveraineté toujours limitée sur la scène internationale. Dire qu'ils doivent disparaître et laisser place à ce qu'on appelle une région... Et maintenant, comment créer cette région, rassembler encore des peuples qui étaient dispersés entre plusieurs pays, c'est faire comprendre peut-être les citoyens qu'au-delà des frontières, c'est un espace commun à tous ces peuples, qu'ils participent au développement aussi du pays, que leur participation est importante. Et donc, qui n'ont pas à supporter des barrières de tout type pour faire quelque chose. Maintenant, déjà à la frontière, on leur pose beaucoup de questions. C'est difficile de rentrer, il faut payer. Non, fermer les yeux, des actes illégaux qu'on commet, alors qu'ils ont le droit de se déplacer, de faire quelque chose. Les droits et les libertés que proclament les constitutions sont juste que des papiers, des mots. Donc, ce qu'il faut passer, c'est une autre étape, dire reconnaître l'existence des États, qu'ils construisent quelque chose, et transformer les frontières des espaces de vie, des espaces de partage, et non pas des espaces de division. Si on trouve dans une région une intégration beaucoup plus grande, et on ne fait pas attention toujours, mais en Afrique de l'Ouest, et surtout la CEDEAO, ils ont déjà un passeport commun. Ils peuvent se déplacer d'une région à une autre. Mais non, parce que dans une région, il y a un peuple plus nombreux que les autres, il y a, qui se prétend être le patron, le doyen du pays, et donc qui discrimine les minorités qui vivent dans ce pays. Et c'est ça, c'est ce blocage qu'on doit surmonter, dire, il n'y a pas à dire, parce que je suis majoritaire, qu'automatiquement, j'ai le dernier mot. Et que le président d'un pays ne doit pas toujours être de la majorité. Et l'exemple du Sénégal illustre très bien comment on peut surmonter ces différences. Quand on voit les quatre présidents, peut-être deux étaient du même groupe, mais il y a un autre qui est d'un peuple qui se trouve partout dans le continent africain, jusqu'en Afrique centrale, l'Afrique centrale, les peuls, l'actuel président Macky Sall. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Au Nigeria, le président, il doit être soit catholique, soit chrétien. Et déjà, catholique et chrétien, ce sont des religions d'importation pour le continent africain. Et donc,
ça, c'est un autre débat, en fait.
voilà. Non, mais supprimer d'un coup les États et dire on va à la place faire des régions, bien. Mais quelles bases partiront ? Et je peux vous donner un exemple, le cas de l'Éthiopie. En 1991, quand le front tigréen a pris le pouvoir avec l'aide des États-Unis, il a créé des régions à base ethnoclanique. Mais il y a des villages à dominante, tel clan, telle ethnie, qui sont passés dans une autre région. Et c'est quelque chose qui est sorti maintenant en novembre 2019, 2020, quand il y a eu la guerre entre le gouvernement central et la région du Tigré. Donc, l'histoire des frontières, l'histoire des limites, pour dire région, que ce soit au niveau de un sens général, c'est-à-dire qui regrouperait beaucoup de pays, ou à l'intérieur même d'un pays, quand on fait des régions pour permettre une plus grande participation aux citoyennes et citoyens, c'est difficile. Dans quelle base? Et il y aura toujours une remise en cause.
Oui, on sait que tout ça est fait un peu de façon superficielle, sans parfois tenir compte des réalités sur terrain. Nous l'avons vu, l'exemple le plus frappant, c'est la conférence de Berlin. Avec la division de frontières, on se retrouve avec des clans par-ci, par-là, la même famille qui est de l'autre côté de frontière. Voilà, donc la frontière a toujours été quelque chose de superficiel. Peut-être, oui, pour la délimitation des États, pour la gestion, la gestion des États. À ce niveau-là, on en a peut-être besoin, mais bon, on sait que ça n'a pas toujours été facile. Badon, je vais revenir à toi, mais je m'aimerais te proposer une petite pause, hein, parce que nous avons quand même beaucoup parlé jusque-là. Tu as bien expliqué, tu as bien répondu à toutes les questions que nous t'avons posées. Je trouve que l'émission, les débats, la participation est pas mal, tout est bien. Mais je vais quand même te proposer de te reposer un petit peu, hein. Quand même, on en a besoin. Le temps de boire un petit verre d'eau, hein, tu sais. Donc, nous allons écouter Tchalamouana, la mame nationale. Kutona tonto jiwangi ngala pankachi Kutikaine maluele muno mulwe Takwa kwa mamwa kaya kwa butakwelele Tatuwe Bala baga shala batangu lantam Tatuwa nyelele Tatuwe Takuwa nyebusumbi diabilamba Tatuwelele Mutu yonso ujini malwe Voilà, vous êtes branchés toujours sur le 105.4 FM, Oncle Kincho microphone, voilà. C'est l'émission Radiographie en direct sur Radio Panique, mais aussi sur Radio Public, sur www.radiopublic.be. Quelles sont vos attentes avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche? Quelle est la politique qu'adoptera vis-à-vis de l'Afrique? C'est la question que nous sommes, ou les questions que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui. Nous sommes en train de décortiquer avec Badon, politologue, sociologue et journaliste. Voilà, un frère africain qui a bien voulu nous donner son temps aujourd'hui pour pouvoir réfléchir avec nous, rêver avec nous par rapport à cette question, et nous disons beaucoup merci à Badon pour ça. Mais entre-temps, l'émission tout doucement mais sûrement va à la fin, on n'a plus beaucoup de temps. Je profite pour saluer Yamaki, Maki a dit place à Zali, Vienanga. Oh yo ya yo, hein. Papa Bella Bella, moi et toi, Mbanda, Talagaga, Sweto, Tchambanda, Ego, Sala, moi, équipe Ropola, mais Talaga, Lelo, Mbanda, Gozalate, Mbanda, la semaine prochaine. Voilà. Ah, Pierre Onya, Nekiri, vive la musique. Pierre Onya nous écoute. Bonne année. Lazare Mboulou, toujours à la pointe, hein, à Molenbeek. Yaye, Angoyo, Lazare. Muzemba Marius, bien angana gashoren, yayo angwana. Carly Kanyinda, mon ami propre, Carly Kanyinda, yayo yango. Monsieur Kanabasayo, Siko Zali, Talaga Ziko Yeyo, wapi Monsieur Kanabasayo, toujours occupé, topesi yayo mbote yangwana. Ok, voilà. Le temps passe, hein. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. On a que quelques minutes pour clôturer, hein. Là, je dis déjà Badon. Voilà, Badon, si on peut faire une sorte de résumé de tout ce qu'on a dit ici. On n'a pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on va revenir la semaine prochaine, puisqu'à 30, nous devons rendre l'antenne. Vraiment pour terminer, tu penses que, par exemple, la présence militaire américaine, puisque c'est de cela qu'il s'agit, tu penses que cette présence va, avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, tu penses que cette présence va diminuer ou...
Ok.
Un peu de temps. On arrête à 30. Hein. On n'a plus beaucoup de temps.
C'est difficile à dire. Franchement, il faut attendre quelques mois pour voir s'il va diminuer ou pas. Et puis, au niveau international, si le mouvement, le terrorisme augmente ou pas, les actes terroristes, si les intérêts des États-Unis sont toujours en danger, cette présence ne va pas diminuer. Je ne dirais pas peut-être que ça va augmenter, mais... Il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il va montrer un exemple de fonctionnement institutionnel différent par rapport à Trump. Trump, il avait déjà commencé la réduction des militaires des États-Unis sur plusieurs terrains. Dans les cas africains, par exemple, le Sahel et la Corne de l'Afrique, en Corne de l'Afrique, c'est une base où il y a comme 2000 militaires, plus ou moins, diminuer peut-être, mais pas mettre fin, parce que c'est une région, comme on dit, l'expression ne me plaît pas du tout, stratégique. Et quand on dit stratégique, c'est un intérêt pour les grands pays et non pas pour les pays de la région. Et il y a la Chine, et donc c'est une région où s'affrontent maintenant les deux grandes puissances. Donc ce n'est pas facile de dire qu'il va diminuer les militaires états-uniens dans la Corne de l'Afrique, mais peut-être présenter une autre formule, d'une autre manière de défendre les intérêts des États-Unis, surtout que la Chine s'implante fortement. Non seulement qu'elle a une base en République de Djibouti, mais elle a une relation politique, commerciale, économique très forte avec l'Éthiopie, un pays qui était toujours qui avait beaucoup d'intérêt avec les États-Unis. Il faut rappeler que les années 50 déjà, les États-Unis ont mis comme pays africain le plus intéressant pour leur politique. Et quand on parle de l'Éthiopie et surtout sa compagnie aérienne, par exemple Ethiopian Airlines, pour dire quelque chose rapidement, ça n'a rien à voir avec le thème. Ça commence par une aviation civile, un militaire, qui est devenu après une aviation civile. Donc, c'était déjà un intérêt pour les États-Unis de défendre le seul pays catholique de l'Afrique, orthodoxe d'ailleurs. Et il a toujours eu à l'œil, même quand il y avait eu un régime communiste. Hein? Donc, et là aussi, il y a des formateurs militaires des États-Unis, des techniciens. Et dans certaines bases militaires de l'Éthiopie, il y a aussi des drones. Hein. Qui sortent là-bas, qui tuent des citoyens éthiopiens, citoyens somaliens, yéménites.
Badon, je crois que nous allons continuer cette émission la prochaine fois, puisque là, vraiment, nous sommes dans les temps, et nous disons déjà au revoir à tous nos auditeurs et rendez-vous prise pour la semaine prochaine. D'ici là, l'antenne va partir, donc automatiquement, Radio Panique va répondre l'antenne. Donc, nous disons au revoir à tout le monde. Nous allons continuer ce thème, si Badon est dispo, la semaine prochaine. Au revoir à tous nos auditeurs et rendez-vous prise pour la semaine prochaine.